écoutez le Poste National sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV. Il est 20h. Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cameroun, Vatican, ciel sans nuages. Le président de la République, Paul Biya, a reçu ce jour un envoyé spécial du Saint-Siège. Au menu des échanges entre les deux personnalités, les relations bilatérales et les sujets mondiaux actuels. Journée mondiale de l'enfance, ce sera le 20 novembre 2024. En prélude, le dossier du 20h interroge le respect des droits des enfants dans le contexte africain marqué par des traditions parfois aux antipodes de ces règles. Comment faire pour concilier les droits de l'enfant et la culture? Marius Pangam, directeur de la protection sociale de l'enfance au ministère des Affaires sociales, va éclairer notre lanterne en posture d'invité. En sport, football éliminatoire de la CAN Maroc 2025, le Cameroun reçoit demain à Yaoundé le Zimbabwe. Principal enjeu de cette rencontre, la première place de la poule J. Bienvenue au journal. Les relations entre le Cameroun et le Saint-Siège passées en revue ce lundi au Palais de l'Unité à Yaoundé. C'était au cours de l'audience que le chef de l'État, Paul Biya, a accordé à Monseigneur Paul Richard Gallagher, envoyé spécial du Vatican. Le président de la République et l'envoyé spécial du Pape ont également échangé sur les grandes questions de l'heure dans le monde. Compte rendu, Dieudonné Ongba.
Le Cameroun et le Vatican entretiennent une longue et riche relation qui a accouché de nombreux fruits, aussi bien dans le domaine de la foi que dans la diplomatie, la formation, la santé, entre autres. Les deux États se respectent mutuellement. Et c'est fort de cette coopération bénéfique que le président Paul Biya a reçu ce lundi matin l'envoyé spécial du pape François, Monseigneur Paul Richard Gallagher, par ailleurs secrétaire chargé des relations avec les États et organisations internationales dans l'État du Vatican. Au cœur des échanges, inéluctablement, les relations entre le Saint-Siège et le Cameroun, sans oublier les questions d'actualité dans le monde. Monseigneur Paul Richard Gallagher.
Nous avons parlé des relations entre le Cameroun et le Saint-Siège. Nous avons parlé de ce verset de COCAD auquel nous célébrons le 10e anniversaire. Et nous avons fait un grand tour du monde pour des situations, les préoccupations de la communauté internationale, les guerres, les difficultés, les défis à ce moment. Et c'était vraiment une conversation très bien informée et positivement impressionnée que le président de la République tient une vision très claire et très, très engagée.
Parlant justement de la relation entre l'État du Vatican et l'État du Cameroun, le légat du pape est péremptoire.
Les relations entre le Cameroun et le Saint-Siège sont excellentes. Nous travaillons ensemble avec des communications libres, avec l'aide de nos apostoliques ici à Yaoundé, et aussi votre ambassadeur auprès du Saint-Siège. Aussi, on voit que la conférence épiscopale nationale du Cameroun travaille très bien avec le Saint-Siège. Les évêques ont participé dans le synode et je crois que nous passons un bon moment de collaboration et de service et nous sommes tout à fait très encouragé.
Et c'est un grand homme, très cultivé et très engagé, que l'envoyé spécial du siège apostolique a rencontré ce lundi à Yaoundé pendant les échanges de près d'une heure d'horloge. Monseigneur Paul Richard Gallagher n'en est pas insensible.
C'est un souvenir tout à fait très positif, un homme très engagé. Tout à fait, il avait parlé de ses visites au Vatican, 5-6 visites. Aussi les visites des Saint-Pères, de Jean-Paul II et de Benoît XVI. J'ai eu une très positive impression d'un président très engagé en faveur du bien de son peuple et très préoccupé pour la situation internationale.
En quittant le palais de l'Unité, l'envoyé spécial du pape n'est pas rentré les mains vides. Le président Paul Biya, fidèle aux attentions réservées aux grands amis, lui a offert un présent. Tradition respectée également au niveau du décor de l'accueil des hôtes de marque. Jet d'eau, head d'honneur de la garde présidentielle. Le ministre Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, qui a suivi le chef de protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, est venu raccompagner l'hôte du chef de l'État au perron du palais de l'Unité après l'audience. Parcours inverse à l'accueil.
Du Palais de l'Unité à l'Assemblée nationale, les membres de la Commission des affaires étrangères ont examiné au fond cette fin d'après-midi le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, un accord qui s'inscrit dans le prolongement de la poursuite des objectifs des chartes des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de police OIPC Interpol et des différents accords de police criminelle. Le projet de loi est défendu par le ministre de l'Administration territoriale, assisté du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth, Félix Mbayou. Sur l'importance de cet instrument, écoutons le ministre Paul Atanganji au micro de Pauline Deauville-Mendoz-Embassy.
C'est un projet de loi qui est très important parce que le monde est devenu déjà un village planétaire et ratifier les accords qui renforcent la collaboration des services de police en Afrique centrale et en Afrique de l'Est est une bonne idée parce que les services de police doivent mutualiser les efforts, les stratégies pour combattre efficacement le terrorisme, le grand banditisme et puis les crimes en bande organisée. Donc nous avons expliqué à la représentation nationale que si le chef d'État a envoyé ce projet de loi, c'est pour créer un monde plus sûr parce qu'on vit dans un monde extrêmement dangereux aujourd'hui. Et lorsqu'il y a cette synergie de travail entre les polices africaines de deux régions, je crois que les populations peuvent être plus tranquilles, les préoccupations seront mieux exploitées et lorsqu'un criminel quitte un pays pour aller ailleurs et qu'il le sache, qu'il ne pourra pas facilement trouver refuge dans ce pays parce qu'il sera traqué par la police. Et c'est un projet de loi qui crée même un cadre de formation. Il y a la formation, il y a la stratégie et puis il y a une dimension internationale de collaboration.
Vous êtes sur le poste national de la CRTV, il est 20h passées de 8 minutes. Le ministre des Affaires sociales, Mme Pauline Erène Nguéné, préside après-demain mercredi, dès 10h, à SOS Village d'Enfants Cameroun en Balmayo, les activités marquant la célébration de la 35e édition de la Journée mondiale de l'enfance. Ce sera sous le thème « Écoutons l'avenir, défendons les droits de l'enfant ». Il sera question cette année de mettre un accent sur la nécessité de permettre à l'enfant d'exprimer son opinion, telle qu'inscrite dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et voilà qui nous conduit donc au dossier du soir sur les droits de l'enfant, justement. En prélude à la Journée mondiale de l'enfance le 20 novembre prochain, sous le thème « Écoutons l'avenir, défendons les droits de l'enfant », l'on s'interroge sur la prise en compte et l'évolution de ces droits dans la société africaine contemporaine. Christine Victoria Penda.
Santé, éducation, protection sont entre autres les éléments indispensables contenus dans la Convention des droits des enfants. En Afrique, dans une société de plus en plus contemporaine, l'on fait face encore à quelques freins.
Il faut tenir compte de l'environnement qui prévaut. Nous, parents africains, n'avons pas les mêmes réalités que ceux d'Europe ou d'Asie. Nous avons à la base nos coutumes et habitudes qui contribuent à l'éducation de l'enfant et qui sont pourtant considérées par d'autres comme violences ou écarts condamnables.
Le monde, désormais village planétaire par l'avènement des TIC, oblige de nombreux parents à revoir leurs devoirs envers les enfants.
L'ouverture au monde, les réseaux sociaux, la multitude de médias et bien d'autres contribuent désormais à l'éducation. Et c'est à nos parents de redoubler maintenant d'efforts.
Les unités techniques opérationnelles, quant à elles, sont à pied d'œuvre en matière de promotion des droits des enfants. Ces structures assurent un travail de proximité auprès des populations qui adhèrent de plus en plus au respect de ces droits.
Nous accompagnons les enfants de 4-5 ans. avec des centres d'éducation de la petite enfance. Nous avons initié des centres d'éducation accélérés.
Nous sensibilisons les parents à ce que tout enfant qui naît puisse avoir un acte de naissance. Encadrer les enfants, les vacciner.
C'est d'ailleurs dans cette optique et pour permettre aux enfants de s'exprimer que le Cameroun, quant à lui, a mis sur pied le Parlement des enfants dont la première session a eu lieu en juin 1998.
L'éducation pour tous, un des objectifs du développement durable, pas à la portée de tous les enfants. Défavorisés par la vie, certains se retrouvent dans les rues, devant les grandes surfaces ou dans les marchés, à exercer le petit commerce. Illustration à Yaoundé, où le phénomène va grandissant. Nelly Christelle Ondoa.
Sachets d'eau en main pour les uns, biscuits, bonbons, chocolat et divers produits d'usage courant pour les autres sont proposés à longueur de journée aux passants à bord de leur véhicule par des enfants qui s'adonnent au petit commerce. Les raisons de cette activité varient d'un enfant à un autre.
J'étais à l'école parce qu'il n'y avait pas d'argent et mon père n'a pas les moyens et maintenant j'ai commencé à vendre.
Une situation qui n'est pas du goût de certains d'entre eux. C'est le cas de Ange. Quelques parents rencontrés ne voient pas d'inconvénient à cette occupation, mais pensent qu'il faut mettre des garde-fous.
Je suis d'accord que les enfants vendent en route en longueur de journée parce qu'ils vont donner de l'aide à leurs parents. L'économie est difficile, mais ça dépendra de l'âge de l'enfant, de l'activité et le nombre d'heures que l'enfant passera en route pour vendre avec ses parents.
Je suis bien d'accord en tant que parent, mais qu'il faut l'âge, à partir de 15 ans au moins, parce qu'on ne veut pas les enfants de 9 ans, 8 ans au marché. Tu peux faire comment? On se bat.
Les parents, dans cette démarche de responsabiliser les enfants, les poussent à perdre leur innocence parce que j'étais trop tôt et sans défense dans l'arène de la vie. Ils se retrouvent donc exposés à des risques multiformes. Nelly Christelle Ondoa, CRTV Centre.
Allons à présent à Ebolova pour capter les avis des populations sur la question de l'exploitation des enfants dans le secteur du commerce ambulant. Droit ou abus, voici quelques réactions compilées par Flavien Zobo.
Je vends chaque jour pour avoir de l'argent pour acheter à l'école. Je vends 3 000.
Le petit Yann Joël, la dizaine bien entamée, parcourt les lieux de forte concentration humaine à Ebolova pour proposer ses glaces aux clients. Comme Yann, ils sont nombreux à arpenter les rues et ruelles de la ville pour vanter leurs marchandises. Pour de nombreux parents, cela n'est autre qu'un abus. David Mvondoutimban, membre de la société civile.
Vendre des bitacola, des colas dans les bars à des heures indues et des petites filles qui vendent toutes sortes de produits dans la journée. C'est des abus parce que ces enfants ne doivent pas travailler. Ils doivent être protégés par la société. On peut comprendre qu'on veut leur apprendre à faire du commerce, mais ils devraient le faire sous la protection de leurs parents.
Le même son de cloche est réitéré par Lila.
Il n'est pas normal de laisser les petits enfants dans la rue pour vendre les choses parce qu'on ne sait jamais si on peut kidnapper un enfant peut-être ou alors tuer même la voiture, ça peut les écraser, c'est une bête.
Mama Karine, que nous retrouvons au marché Oyanga, temporise en brandissant les dures réalités de la vie.
Mais normalement pour les enfants qui vendent en rue là, ce n'est pas bien, mais parfois ça dépend, parce que parfois si on ne vend pas, on va dormir en famille. C'est pour ça que parfois on vend pour manger.
À Ebolova, l'on milite pour une société où le respect des droits des enfants est inaliénable. Flavien Zobo, CRTV.
Les droits de l'enfant protègent les tout-petits afin qu'ils grandissent dans de meilleures conditions. Contrairement, paraît-il, aux traditions africaines qui astreignent l'enfant à certaines tâches constituant ainsi un frein à son épanouissement. Mimosette Tonien.
La Charte africaine des droits et du bien de l'enfant prévoit que tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus par celle-ci. Il s'agit du droit à la vie, à l'éducation, du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, entre autres. Par ailleurs, aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée. Dans le même temps, l'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers et peut perturber son éducation. Au regard de tout ceci, une question nous vient à l'esprit, celle de savoir la place qu'occupent les traditions africaines dans l'épanouissement de l'enfant. Dans la société africaine, l'enfant se doit d'effectuer certaines tâches ménagères telles que la vaisselle, le ménage, les travaux champêtres pendant les vacances scolaires. Ceci constitue-t-il une entrave aux droits de l'enfant? Selon les familles africaines, ce sont des actions qui contribuent à une éducation intégrale de l'enfant. Quoi qu'il en soit, la tradition africaine, contrairement à ce que l'on peut penser, promeut les droits de l'enfant, même si l'on regrette certains abus. Les enfants vendeurs à la sauvette dans les marchés et les rues, les travaux forcés, toute chose qui n'a rien à voir avec les traditions africaines. Ce sont des travers qui s'observent dans toutes les sociétés. Toutefois, il y a des exceptions liées à certaines coutumes qui sont à condamner. À l'exemple, des mutilations génitales féminines, du repassage des seins, qui sont d'ailleurs proscrits par les gouvernements.
Dans le fauteuil de l'invité du 20h, le directeur de la protection sociale de l'enfance au ministère des Affaires sociales, Marius Pangam, souligne la détermination des pouvoirs publics à assurer l'intégralité des droits des enfants. Il en veut pour preuve la signature par le pays de plusieurs conventions internationales liées aux intérêts inaliénables de cette composante de la société. Marius Pangam répond par téléphone aux questions de Sardi Lawan.
Marius Pangam, bonsoir.
Bonsoir.
Quelle est la situation exacte des droits de l'enfant aujourd'hui au Cameroun?
Situation stable, parce que le Cameroun est parti pour les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'enfant. J'ai envie de citer par exemple la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant que le Cameroun a ratifiée, la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, la Convention numéro 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi de l'enfant. Je voulais citer la Convention numéro 182 sur les petites formes de travail des enfants. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, malgré quelques situations d'irrespect du cadre légal par certains Camerounais, nous pensons qu'aujourd'hui, la situation sur le respect des droits de l'enfant au Cameroun est plutôt stable et on peut dire que le gouvernement camerounais reste ancré sur la protection des droits de l'enfant.
Vous mettez quand même un petit bémol. Ça veut dire qu'il y a des menaces qui pèsent encore sur le respect des droits de l'enfant au Cameroun?
Vous savez, dans un environnement comme le nôtre, il est difficile de penser qu'on peut maîtriser de façon optimale la protection des droits de l'enfant. Pour tout dire, la pesanteur culturelle, l'ignorance de la législation justifie aujourd'hui, pour la plupart des situations, des menaces qui peuvent peser sur le respect des droits de l'enfant au Cameroun.
Alors, nous sommes dans une société où le traditionnel est rejoint par le moderne, où s'arrêtent les droits de l'enfant et où commencent les devoirs.
C'est qu'il est important de relever la nécessité d'avoir un savant dosage entre les droits de l'enfant et les obligations. Et pour tout vous dire, le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui en réalité promeut les droits de l'enfant sur le plan international. Maintenant, vous avez la contextualisation du respect des droits de l'enfant à travers la ratification par le Cameroun de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui ressort les obligations des enfants. Et je voudrais rappeler que ces obligations permettent en réalité à l'enfant de s'ancrer dans son environnement socioculturel. Ce n'est pas les obligations qui sont de nature à mettre à mal l'éducation de l'enfant ou à mettre à mal le bien-être de l'enfant, mais ce sont les obligations qui permettent à l'enfant de mieux s'insérer dans l'environnement socio-culturel. Je voudrais par exemple vous prendre le cas du travail socialisant, cet enfant qui vit dans une famille et qui a besoin de savoir que le matin lorsqu'il se lève, il peut faire la vaisselle, il peut apprendre à nettoyer la maison, il peut faire la lessive. Ça, c'est un travail socialisant qui n'a rien à voir avec un travail qui le prive, par exemple, d'avoir droit à l'éducation ou un travail qui va au-delà même de ses capacités physiques ou alors de ses capacités émotionnelles. Donc, il est important au niveau du Cameroun de savoir qu'il y a un savant dosage entre les droits de l'enfant et les obligations qui lui sont dues et ces obligations qui sont contextualisées dans le contexte africain, notamment pour me répéter, à travers justement la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Une des missions régaliennes de l'État, c'est la protection des individus. Et qui plus est, la protection de la vulnérabilité. Et quand vous savez que l'enfant fait partie des cibles vulnérables d'un État comme le Cameroun, vous avez compris qu'il est important pour l'État de protéger l'enfant. Parce que l'enfant est un de ces êtres-là qui, en réalité, n'a pas en lui la faculté de pouvoir lui-même se protéger.
Marius Pangam, merci d'avoir parlé à la CRTV.
Je vous remercie.
Dans la suite du journal, dans le cadre des retombées du plaidoyer international de sa présidente fondatrice, Madame Chantal Billard, Synergies africaines a reçu de l'État d'Israël des équipements pour l'amélioration de l'accès aux énergies renouvelables et pour le filtrage et le traitement de l'eau. La cérémonie de remise et de rétrocession de ces équipements à l'hôpital central de Yaoundé aura lieu demain mardi 19 novembre 2024 à 11h au siège de l'association panafricaine. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun est arrivé en fin de mission. Fanuel Habimana s'est vu décerner la croix d'officier de l'Ordre souverain de Malte. C'était cet après-midi à Yaoundé au cours de la cérémonie d'au revoir présidée par le ministre de la Santé publique, Ibrahim Mohamed Abassi.
En 6 ans et 7 mois de mission au Cameroun, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a orienté ses interventions vers la mise en place d'un système de santé performant et inclusif. Docteur Fanuel Habimana a œuvré dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, la gestion des maladies transmissibles, notamment la poliomyélite, la tuberculose, le VIH, le choléra, l'introduction du vaccin contre le paludisme et surtout le renforcement du système de santé qui conduit vers la couverture de santé universelle, souligne le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. Le représentant de l'OMS quitte le Cameroun avec la distinction de la croix de l'ordre d'officier Promerito Militensi de l'ordre souverain de Malte. Docteur Fanuel Habimana.
C'est en leur âme et conscience qu'ils ont jugé que l'OMS méritait ces distinctions, mais sinon c'est vraiment pour moi le symbole du bon partenariat au service du Cameroun.
Présente à cette cérémonie de revoir, Célestine Kecha Courtez, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, salue la rigueur et l'efficacité du docteur Fanuel Habimana et reconnaît son engagement dans l'assainissement du cadre de vie des populations.
Le ministre de la Santé publique salue l'excellence des relations entre le Cameroun et l'Organisation mondiale de la santé et souhaite que les actions soient davantage densifiées au profit des populations. Manaouda Malachi, au micro de Ibrahim Mohamed Abassi.
La collaboration entre l'OMS plus globalement et l'État du Cameroun est excellente. Nous avons toujours travaillé main dans la main avec le personnel, tout le staff de l'OMS et davantage avec son représentant résident. Il vous souvient que pendant la COVID-19, il a presque établi son bureau au ministère de la Santé publique parce que nous devions travailler, on devrait trouver des stratégies ensemble, faire des propositions à monsieur le président de la République, son excellence Paul Biya, afin que nous puissions trouver des voies et moyens. Chaque fois qu'on a une épidémie de choléra ou quelque chose comme ça, ils sont les premiers à être sur le terrain. Le temps que nous puissions trouver les moyens de mobiliser un peu de moyens pour venir aussi. Maintenant, le représentant résident qui s'en va, nous avons trouvé en lui quelqu'un d'assez humble, d'assez engagé et surtout quelqu'un qui a encore sous la main, comme on dit, parce que chaque fois je l'ai vu au chevet des Camerounais les plus démunis, dans des structures de santé les moins pourvues et pouvoir apporter une amélioration et chaque fois une prise en charge.
Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. La mauvaise utilisation des antibiotiques en santé humaine et animale, dans l'agriculture, tout comme dans l'environnement, est un facteur majeur qui rend les infections beaucoup plus difficiles à traiter et augmente le risque de complications et de mortalité. Révélation ce lundi lors du lancement de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance antimicrobienne. Cérémonie présidée par le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Sur le bien fondé de cette activité, écoutons Ali Ahmed Yahaya, chef de l'unité résistance aux antimicrobiens, bureau régional OMS pour l'Afrique. Il s'exprime au micro de Mimosette Tonien.
L'ensemble de la communauté internationale, l'Organisation mondiale de la santé, le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation mondiale de la santé animale et la FAO dont j'ai l'honneur de représenter ici, se sont mis ensemble pour coordonner l'action mondiale de sensibilisation et de lutte contre la résistance antimicrobienne. Alors sur le terrain, il y a plusieurs facettes sur lesquelles les États travaillent dans le Cameroun. Il y a des aspects de formation, des aspects de réglementation, notamment dans la lutte contre les pharmacies de rue, les automédications, l'usage excessif des médicaments d'une manière disproportionnée, soit pour la croissance des animaux, soit pour la prévention. Tous ces aspects-là et bien d'autres. Et puis la sensibilisation, c'est ce que nous faisons cette semaine.
L'Institut de recherche pour le développement célèbre ses 75 ans de coopération scientifique avec le Cameroun. La cérémonie d'ouverture de ces festivités s'est tenue ce lundi à l'Institut français de Yaoundé. La présence de l'IRD sur la scène scientifique nationale était saluée. 10% de toutes les publications scientifiques au Cameroun sont réalisées grâce au concours de l'IRD et des scientifiques camerounais. Au menu des festivités de ces deux jours, des conférences thématiques sur l'environnement, la santé, les sciences sociales et environnementales. Elles seront animées par un panel d'experts nationaux et internationaux. Séraphin Djikam.
75 bougies pour éclairer l'existence scientifique de l'Institut de recherche pour le développement au Cameroun. Cet organisme de recherche publique français, installé dans le pays depuis 75 ans, inscrit ses priorités dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ses actions arrosent plusieurs domaines. Télésphore Simengando, représentant de l'IRD au Cameroun.
En termes de bilan, l'IRD participe à hauteur de 10% de toutes les publications scientifiques qui se font au Cameroun. Donc en termes de formation aussi, vous savez qu'on pilote des masters, on pilote des collèges doctoraux, il y a beaucoup de mobilité de scientifiques entre le nord et le sud.
L'IRD, c'est aussi 75 ans de coopération scientifique fructueuse avec le Cameroun. Des activités de recherche sur la santé, l'environnement et les dynamiques sociales menées en partenariat avec le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Un mariage scientifique France-Cameroun qui dure déjà 75 ans.
J'ai insisté sur la construction de ce CBE, ce centre que nous voulons établir ensemble à Colbisson, soit un lieu dans lequel les chercheurs français, camerounais ou de toute la région pourront se retrouver.
Pour ses 75 ans de présence au Cameroun, l'IRD organise pendant deux jours des tables rondes et des échanges avec le public afin de mettre davantage la recherche scientifique au service du développement du Cameroun.
Les travaux du tout premier forum régional agroécologie dans le bassin du Congo se sont ouverts ce jour à Yaoundé sous le thème agroécologie pour la durabilité des systèmes alimentaires et la préservation des forêts du bassin du Congo. Une initiative du service d'appui aux initiatives locales de développement et ses partenaires sous la houlette du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Gabriel Mbaye-Robé. Trois jours de débats et exposition sur les défis et les bons points de l'agroécologie. Eliane Matingoum.
La production des engrais organiques et des biopesticides, le développement de certaines techniques agroécologiques, la vente et la consommation de produits agroécologiques constituent les grandes ambitions de ce forum. Il réunit les décideurs, les agriculteurs, les éleveurs bio, les transformateurs et les fabricants d'intrants biologiques pour la promotion de leur savoir-faire. Ce tout premier regroupement régional prévoit de primer les trois meilleurs producteurs agricoles pour la qualité, la quantité de leurs produits et le niveau de satisfaction du public. Osie Nanachimi, secrétaire général du service d'appui aux initiatives locales de développement.
Qui a un intérêt plus accru de tous les acteurs vis-à-vis de la question agroécologique. Nous voulons que les consommateurs soient sensibles, les décideurs soient sensibles à cette cause. Parce que tout ce qui va se décider ici devait être implémenté.
L'agroécologie se positionne comme l'une des meilleures voies pour faire face à la croissance démographique. Anna Rousseau, conseiller technique principal du projet Axis GIZ.
Il est important que dans le futur, on puisse extraire de notre environnement l'alimentation nécessaire à la population sans détruire cet environnement. Et l'agroécologie est une des meilleures voies pour ce faire.
L'agroécologie est une solution d'adaptation au changement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui concourt à la préservation durable des forêts du bassin du Congo.
À noter qu'en marge de cette rencontre, une foire exposition se tient au boulevard du 20 mai à Yaoundé jusqu'au 20 novembre prochain. C'est pour mettre en exergue les techniques et les produits agroécologiques. Le ministre des Travaux publics informe les usagers de la Nationale 3 Yaoundé-Douala que suite à la baisse de la pluviométrie, les travaux de mise à niveau de cet axe routier ont commencé. Il s'agit des travaux de renforcement de la chaussée qui allie le traitement des nids de poules et la réhabilitation de larges bandes détériorées. Ils s'étendront sur 9 mois. Le ministre des Travaux publics, qui comprend les désagréments que pourraient connaître les usagers de cette route du fait de ces travaux, les invite au civisme et au respect des panneaux d'information. Il les rassure que des efforts sont faits pour contenir le planning d'exécution dans le délai contractuel. Il importe de souligner que la nationale numéro 3 a accompli sa durée de vie et dépassé le seuil d'entretien. En conséquence, le gouvernement a entrepris de mettre en place un financement destiné à sa reconstruction. Le ministre Eyebeayissi, pour sa part, président exécutif du comité départemental de mobilisation des élites et force vive de la Likié, annonce qu'une rencontre d'information élargie portant sur les modalités de contribution et de participation aux obsèques d'Onana Vincent est convoquée le mercredi 20 novembre 2024 de 16h à 18h à la salle du rez-de-chaussée de l'immeuble siège du conseil régional du centre à Yaoundé. Les personnels élites et forces vives de la Likié, ainsi que les amis de la famille d'Onana Vincent, sont cordialement invités à cette rencontre, à laquelle prendra part une délégation des membres de la dite famille. En religion, le révérend pasteur Mickey Hans Abia est le 7e modérateur de la Presbyterian Church in Cameroun. Il vient d'être élu au terme d'un synode de 2 jours au siège de la PCC à Boya. Le révérend Ayouk Solomon Eta, quant à lui, devient le secrétaire général. Stéphane Tala est en ligne de Boya. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Marie Chantal. On n'attend plus que la sortie des 2 nouveaux dirigeants de la Presbyterian Church in Cameroun de la salle de conférence du Press Flat ici à Boya. Dès 17h, plusieurs dizaines de personnes ont pris place à l'extérieur pour attendre la bonne nouvelle. Et depuis quelques minutes, c'est le révérend Mickey Hans qui devient le 7e modérateur de la PCC pour une période de 5 ans. Son concurrent, le révérend John Guy Polycap, a retiré sa candidature peu avant l'élection proprement dite. Pour le poste de secrétaire général, le synode Clark, le révérend Mokoko Simon Elivé a procédé au retrait de sa candidature, laissant son confrère révérend Ayouk Solomon Eta seul en lice. Les délégués du synode ont donc porté leur choix sur ce dernier. Devenu pasteur en 1997, le nouveau modérateur, le révérend Mickey Hans Abia, était précédemment secrétaire général. Il remplace le révérend docteur Fonky Samuel Foba, qui a présidé aux destinées de la PCC pendant 10 ans. En direct de Boya pour le 20h, Stéphane Tala, CRTV.
Nous voici en sport au football éliminatoire de la CAN 2025. Cameroun-Zimbabwe, c'est demain à 14h au stade Omnisport de Yaoundé. Dans la tanière, l'optimisme règne. Principal enjeu de ce match, c'est la première place de la poule J, les deux équipes étant déjà qualifiées pour la phase finale de la compétition. Conférence de presse d'avant-match cet après-midi. Se sont livrés à cet exercice l'entraîneur sélectionneur national Marc Brice et le défenseur central Christopher Wu, que nous vous proposons d'écouter au micro de Samuel Billon.
C'est le jeu qui arrive dans n'importe quel stade, c'est un duel de la tête. Malheureusement, je l'ai pris dans l'œil, je suis tombé dans le coma, comme ça arrive pour beaucoup de joueurs. C'est pas la première fois que je joue dans ce stade, il s'est passé beaucoup de bonnes choses, j'ai eu des victoires, il y a eu des bons matchs, je l'aborde comme n'importe quel match psychologiquement. Et j'essaie toujours de marquer le but, des fois ça réussit comme à la CAN, des fois ça réussit pas. Toujours à fond, sans protection, faut que je fasse plus attention, je pense, des fois, si je vois que je vais pas avoir le ballon, je vais pas y aller bêtement. Mais c'est des fois, je dis, c'est des faits de jeu, il n'y a pas d'histoire de les voir à côté au carré. On est des compétiteurs, on a envie de gagner, surtout qu'on est à domicile, donc on a envie de rentrer les supporters camerounais. Comme tous les matchs, il n'y a pas plus de stress qu'un autre, c'est un match de qualification et on a envie de gagner. On se motive, on essaie de jouer, on s'entraîne.
Cameroun-Vatican, ciel sans nuages. Le président de la République, Paul Biya, a reçu ce jour un envoyé spécial du Saint-Siège. Au menu des échanges entre les deux personnalités, les relations bilatérales et les sujets mondiaux actuels. En sport au football éliminatoire de la CAN Maroc 2025, le Cameroun reçoit demain à 14h à Yaoundé le Zimbabwe. Principal enjeu de cette rencontre, la première place de la poule J. 20h34, fin de ce journal. Technique Daniel Mamia, réalisation Priskanjeng Mongolo, assisté de Jean-Philippe et Bella Stagiaire, rédacteur en chef Simon Lyonga. Je suis Marie-Chantal Noah. Merci, excellente semaine avec la CRTV.